Comic Zena.
Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et autant de plaisir que je reçois au téléphone l'artiste de la semaine sur notre antenne, le chanteur et guitariste Alberti Villarien Batlick. Batlick, bonjour.
Salut, bonjour.
Alors, tu n'as pas déménagé, ton bureau de vote se trouve toujours à Aubervilliers.
Exactement, je ne bouge pas, cette ville, plus j'y suis, plus ça me plaît.
D'accord. Alors, je parlais de bureau de vote. Hein. Tu n'es pas comme notre ami Cyrano. Hein. Tu crois encore au pouvoir des urnes?
Non, pas du tout. Mais sans, c'est-à-dire que non, je fais partie de ceux qui ont comme une large désillusion. Je suis d'accord avec Cyrano sur ce qui est de la gauche et de la droite. En revanche, je le suis peut-être un peu moins sur ce qui est des extrêmes, surtout l'extrême gauche. J'ai l'impression que c'est là où on trouve du sens, quoi. Que le capital se situe à gauche et à droite, ça c'est certain, le libéralisme, toute cette soupe est au milieu, et que, bon, bah, moi, là où ça résonne, où ça me touche, et où j'ai l'impression que, y a un fond de vraisemblance par rapport à la vie d'aujourd'hui, c'est à l'extrême gauche.
Ouais. Mais tu es comme Cyrano, tu ne votes pas?
Si, je vote, je vote au premier tour. En revanche, quand on me propose au deuxième tour crétin 1 ou crétin 2, je bouge pas mon cul, ça c'est clair que non. Voilà.
Tu t'es pas fait avoir en 2002, toi, t'étais trop jeune.
Depuis 2002, oui, non, j'ai arrêté de me déplacer pour le deuxième tour. Parce qu'effectivement, je me suis fait comme tout le monde, et je me suis juré que ce serait la dernière fois. Voilà.
Voilà. Alors, à travers tes chansons, tu revendiques certaines valeurs, et surtout, tu dénonces régulièrement quelques-unes des inégalités frappant le monde en général et notre pays en particulier. Tu as été sollicité récemment par des partis afin de chanter dans des meetings où tu penses que ce n'est pas forcément le rôle ni la place d'un artiste.
Je pense que non, je dis pas que c'est le rôle ou pas le rôle d'un artiste. Moi, je pense que si les artistes ont envie de s'engager politiquement, bah, ils peuvent le faire. C'est pas parce que c'est des artistes que c'est pas leur rôle. Je trouve ça crétin de dire ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de s'engager ou pas. Moi, j'ai déjà eu des propositions de la part des partis, mais j'ai pas répondu positivement. Je pense que l'engagement, il peut se situer à plein d'autres niveaux aussi, dans la manière dont on fait ce travail. Je suis en train d'essayer de taffer pour monter un syndicat. Je pense que c'est un engagement aussi pour faire respecter les droits des artistes qui ont choisi de pas forcément participer à l'industrie, en tout cas de faire ce métier en se passant de l'industrie. Voilà, il y a mille déclinaisons de mille engagements différents. Celui d'aller chanter pour telle ou telle partie me semble peut-être, si j'avais une petite critique à émettre, un petit peu simple, juste un petit peu trop direct, quoi. Enfin, pas direct, mais un peu trop évident, en tout cas. Ouais. Voilà, mais en tout cas, ceux qui le font, j'irais pas dire que c'est pas le rôle des artistes. D'ailleurs, souvent, ceux qui disent ça, c'est un peu comme les gens qui veulent pas annoncer combien ils gagnent, tu sais.
Ouais,
c'est
ouais.
Le même truc, et c'est parce qu'en fait, ils veulent pas dire c'est quoi leur... Enfin, ça cache quelque chose, quoi. Souvent, quand quelqu'un dit cette phrase-là, c'est pas de mon rôle de... C'est quoi ton rôle? T'as un rôle ailleurs? Je sais pas. Enfin,
bon, voilà. Ouais. Alors, pendant cette campagne présidentielle, on a guère entendu parler de culture, évidemment, et encore moins de chansons, à part peut-être de la loi Hadopi. Le statut des intermittents est justement une des exceptions culturelles françaises. Avec cette mondialisation, ce libéralisme et cette financiarisation que ni Sarkozy ni Hollande ne veulent combattre, ce que certains osent appeler un privilège est-il plus que jamais en danger?
J'en sais rien, faudrait voir quand est-ce qu'ils vont mettre le nez dedans. En tout cas, si à un moment ça devient un danger, je pense que on se lèvera, quoi, comme on a fait avant. On va pas se laisser faire, l'idée c'est ça, quoi. Et ça va être dans le rapport de force que ça va se passer, quoi. Après, bien sûr, effectivement, c'est la déclinaison de vocabulaire qui est... Certains appellent ça un privilège, d'autres l'appellent un droit. Par rapport au texte de loi, j'avais l'impression que c'était un droit et que l'appellation privilège était erronée ou en tout cas inexacte. Chacun voit midi à sa porte. Le fait est que le moment où il sera en danger, il y a ceux qui bougeront leurs fesses pour contrer le danger, et puis ceux qui diront ah mais c'est pas mon rôle.
Ouais. Alors Warren Buffett déclarait en 2005, je cite, hein, « Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner. Chez les artistes, on a l'impression que c'est la même chose. Toi qui chantes depuis bientôt 10 ans, tu as aussi l'impression que ta classe est en train de perdre la guerre et que ce sera de plus en plus dur de résister et de vivre de votre passion. »
Je suis malheureusement complètement d'accord avec la phrase de Buffett, quoi. Mmh. C'est tristement vrai. Ouais. Ouais. Le fait est que c'est en ce moment, les choses changent. Le temps passe et puis les choses changent avec le temps. Je te parlais tout à l'heure d'un syndicat. Moi, je suis à chaque fois étonné de voir à quel point dans le milieu des artistes, on est soumis, notamment les artistes qui signent avec l'industrie phonographique, à des contrats qu'on retrouve très rarement dans les autres secteurs d'activité. Parce qu'ils vont très loin, un contrat d'artiste, par exemple, donner son nom à une structure, donner son travail, lâcher tous ses droits-là à son patron, ça arrive que très très rarement dans d'autres secteurs. Et puis j'entends tous les jours parler d'artistes qui sont malmenés par leurs producteurs, qui sont virés, qui sont poursuivis au prud'homme. Et ça, c'est étrange, comme dans le milieu des artistes, aucun autre collègue de l'artisticité ne fait quoi que ce soit. Dans n'importe quelle société, tu as un problème avec ton patron, il va y avoir soit un syndicat, soit des collègues qui vont bouger pour prendre ta défense. Chez nous, les artistes, eh ben, ça n'existe pas. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un label, l'ancien label de Moriarty porte plainte au prud'homme contre eux.
Ah ouais.
Aucun artiste de ce label-là ne bouge. Mmh. Personne ne bouge. Je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait pas une mise en réseau. Les gars, les collègues, ils continuent à monter sur scène, à dire qu'effectivement, ils sont de gauche, à lever le poing en l'air en disant on est pour la paix, etc. Ouais. Mais dans les faits, il se passe rien. Voilà, je trouve ça un peu aberrant, mais rien n'est dit, ça ne va pas changer dans les prochains temps.
Ouais. La solidarité chez les artistes, c'est pas ça.
Bah non.
Mmh, ouais. Bien, alors allez, notre dernier entretien radiophonique et téléphonique date, nous, du jeudi 2 juin 2011 à l'occasion de ta venue avec Thomas Pithiot au Moulin de Brennan à Poligny dans le Jura pour défendre votre projet à deux et puis votre album en commun, La Place de l'Autre. Alors, qu'as-tu retiré de cette expérience avec cet autre talentueux Alberti Villarien. Oui, oui.
Bon, après, l'expérience que j'ai eue avec Thomas, professionnelle, elle a été dans la continuité d'une expérience, on peut appeler ça comme ça, amicale. Donc, j'ai pas trop fait la distinction, si tu veux. C'était un pote avant, c'était un pote pendant. D'ailleurs, là, il est en train d'arriver. Puis quand je te parle, là, il me fait coucou à la maison, il est en train d'arriver.
Ah bah, tu te salues pour nous, hein.
Voilà. Voilà, c'est surtout ce qui était bien, quoi. C'est qu'on s'est pas retrouvé d'un coup à avoir des relations de travail, qu'on a continué à être potes. Et qu'il n'y a pas eu de changement relationnel. C'était juste agréable, quoi, de travailler avec un pote. D'habitude, je travaille tout seul, enfin, avec les musiciens avec lesquels je bosse, mais au niveau artistique, je me débrouille tout seul. Là, c'était rigolo, c'était parfois chiant, enfin, en tout cas, c'était intéressant, c'était enrichissant de travailler avec Thomas.
Ouais. Alors, cette collaboration avec Thomas Pithiot t'a donné envie de travailler à nouveau avec d'autres artistes, et pas forcément originaire du 9-3, d'ailleurs?
Mais c'est-à-dire que je pense que c'est bien si ça se passe aussi naturellement que ça s'est passé avec Thomas.
Ouais.
Après, moi, j'ai toujours un peu peur des trucs organisés en avance ou en amont, un peu trop longtemps. Mais quand ça se présente, c'est bien. Tout récemment, là, il y a une jeune fille de l'Est de la France qui est venue enregistrer un album ici. Et ma foi, ça va être sans doute la première expérience de production que je vais faire avec le label à Brûle-Pourpoint là.
D'accord.
Ce qu'elle a posé sur le disque, c'est vraiment fameux et ça m'a donné envie d'aider cette nénette là.
Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle, son nom de scène c'est Anast. Alors elle a un groupe qui tourne pas mal en fait depuis quelques temps qui s'appelle Les Dessous de la Vie. Puis là elle se lance dans un projet solo.
D'accord.
Voilà, ça va être un plaisir de proposer ça en tout cas aux gens, puisque je pense que ça mérite d'être écouté.
Aux gens et aux radios ?
Aux gens et aux radios, dont Tropic FM.
Bien, merci. Alors, depuis le 2 juin 2011, il s'est donc écoulé un peu plus de 10 mois, le temps suffisant pour toi pour écrire, enregistrer et sortir un nouvel album. Un disque par an, ou presque, hein, c'est le rythme que tu as pris depuis tes débuts. T'es un peu le Jean-Louis Murat de l'Île-de-France, tu le prends pour un compliment, ce que je viens de te dire ?
Ouais, moi. Écoute, j'ai l'impression, comme je dis à chaque fois qu'on me pose cette question-là, que... c'est les autres qui glandent pas grand chose, quoi. Mais en même temps, quand effectivement on gagne beaucoup d'argent en sortant un disque, ça fait un peu perdre l'envie d'en faire un autre assez vite. On se dit, je vais d'abord dépenser ce que j'ai gagné. On est dans les économies d'indépendants, nous. Et puis moi, je me fais assez vite chier aussi. Tourner un set trop longtemps, ça m'embête. J'aime bien proposer aux artistes, aux musiciens avec lesquels je bosse des changements de set. Donc j'essaie de garder ce rythme-là pour pas qu'on s'embête, pour des raisons aussi économiques. Et puis le tout, ça fait qu'il y a cette dynamique qui va certainement s'amoindrir, voire peut-être s'arrêter un jour, mais que pour le moment est toujours là.
Je t'ai comparé avec Jean-Louis Murat, ça va ?
Ça va, franchement, ça va. J'ai... moi j'ai vu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu sur scène, mais j'avais vu sur scène à Montauban, j'avais apprécié son travail artistique, et puis j'apprécie sa mauvaise humeur aussi, je trouve que c'est les gens de mauvaise humeur me semblent plus vrais que ceux qui sont tout le temps de bonne humeur.
Ouais.
Et puis ses rapports avec l'industrie aussi, phonographique, j'ai tendance à les approuver.
Ouais, puis je pense que ça dépend avec qui est de mauvaise humeur. Hein.
Ouais, si jamais ils s'en prenaient à moi, peut-être que prochain coup de téléphone, je te dirais que c'est un connard. Mais pour le moment,
je pense pas.
Je l'ai vu que de loin, et puis j'apprécie le bonhomme.
Oui, c'est à qui il s'adresse. Alors, toi, tu racontes dans la biographie que l'on retrouve sur ton site internet www.abrulpourpoint.com que tes albums jusqu'à 2008 ne se vendent, je cite, qu'à quelques exemplaires. Tu es plus un créatif qu'un commercial ou un vendeur.
C'est-à-dire que, ouais, un commercial en tout cas, oui, après tout, ça va, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est que quand tu commences avec, tout est fait pour les gens qui ont déjà des gros capitaux à la base, c'est quand même compliqué de grandir de manière exponentielle comme le font certains artistes sans avoir des milliers et des cents d'apport dès le départ. Mais c'est pas gênant, encore une fois, l'idée, moi, c'est d'avoir juste une économie qui me permette de pouvoir continuer à faire des disques. Pas forcément de pouvoir acheter une maison dans le Lot, j'en sais rien, avec une piscine. Donc tant que j'ai ça, moi je suis un homme heureux, je tourne, je fais mon métier, je fais mon travail, je fais des disques. Si l'économie me le permet, ça me suffit.
Ouais. Alors avec ce qu'on appelle la crise du disque, hein, sortir encore des albums, et au format CD en particulier, sert-il encore à quelque chose? Nous on en est convaincus, hein, et en un seul mot, hein, convaincus. Pour les grands médias, c'est plutôt en deux mots.
Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'il faut faire des choses aussi quand on est dans le milieu de la culture ou de l'artistique qui sert à quelque chose à tout prix? Est-ce que le fait que ce soit utile doit être l'élément déclencheur? Je sais pas, je trouve ça aussi intéressant de faire des choses qui servent à rien, surtout dans ce milieu-là. Je trouve ça joli, je trouve ça poétique. Puis c'est ce qu'on donne, quoi. C'est ce qu'on donne à écouter, c'est de la poésie. Est-ce que la poésie doit être utile? Bon, c'est une grande question, une vaste question, hein, mais je suis pas certain.
Ouais. Alors, ce nouvel album, parlons-en, le 8e de ta nombreuse discographie, album, studio, public et collaboration compris, est donc sorti le 2 avril 2012. Il s'appelle Le poids du superflu. Tu t'en expliques dans la chanson qui porte le même nom. Tu parles de l'inspiration qui ne vient pas de la page blanche lourde à porter. Une explication de texte s'impose à propos du titre de l'album et de la chanson.
Écoute, c'était la dernière chanson que j'avais à écrire pour ce disque-là, et puis c'est vrai que je galérais vraiment, je cherchais, je tournais, je trouvais pas. J'avais juste ces quelques mots là, le poids du superflu, et ma foi, plutôt que d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire, j'ai écrit l'histoire d'une chanson que je ne peux pas écrire parce que je ne la comprends pas, et que la seule clé qui m'est donnée, le poids du superflu, je ne le comprends pas non plus. Donc voilà l'histoire que je livre, c'est une histoire d'incompréhension et de ne pas pouvoir faire cette chose là. Voilà.
Eh ben c'est réussi parce que j'ai pas tout compris, donc c'était normal.
Voilà.
D'accord. Alors ton quatrième album s'appelait Utilité, l'inverse du superflu. En 2007, tu avais, je cite, peur de douter de ton utilité. 5 ans plus tard, tu ressens le poids du superflu. Avec l'âge, on relativise, on prend les choses moins à cœur, ou alors de manière bien différente?
Voilà, alors ça, cette question est compliquée avec l'âge. C'est compliqué de savoir ce qui varie avec l'âge. C'est comme...
Comme le bon vin.
Ouais, ou il y a une phrase là qui est bien de Max, là, celui qui écrit les textes pour Carmen Maria Vega, là, qui dit que les cons ne changent pas, ou alors tout doucement. Là. C'est vrai que quand on a des changements, c'est presque imperceptible, et on est surtout les derniers à le voir, ceux qui sont concernés, qui les voient le moins, quoi. Je sais pas, franchement, j'ai pas trop de recul par rapport à ce que je fais, si ce n'est dans les critiques qu'on peut me faire autour de moi par rapport à ce que j'écris ou la musicalité de ces trucs-là, mais là encore une fois, en fait je crois que j'ai même pas envie de me poser cette question, savoir ce qui change d'un album à l'autre, ma façon de percevoir, j'arrive à le voir avec beaucoup de recul, que je vois les premiers albums par exemple, je commence à avoir du recul dessus, un peu comme des vieilles photos que t'as chez toi et que tu voudrais cacher sous des matelas parce que tu saisis bien ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Ça prend beaucoup de temps, du coup, ce que je fais en ce moment là, ce qui m'arrive là, je préfère pas avoir à me l'expliquer ni à l'expliquer tout court.
Ouais. Alors depuis l'art des choix, on ne te voit plus sur la pochette, comme si le projet Batlick était aussi devenu celui de tes musiciens. La notion de groupe est réelle?
Mais je pense qu'elle a toujours été. Après, le truc de la pochette, c'est vrai que c'était vraiment pour un aspect pratique. Voir Maganache à chaque fois sur des affiches, dans les salles et tout, c'était devenu insupportable. À un moment, je me suis dit, fini, quoi, c'est la dernière fois. Et puis, après, le rapport aux musiciens, j'ai l'impression d'avoir toujours eu, mais c'est vrai que sur ce disque-là, pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de jamais avoir fait autant que ça de la musique, quoi. J'ai changé complètement d'équipe au niveau musical. Je travaille avec un contrebassiste, il s'appelle James Andatri, un batteur, Benjamin Véron, et puis le seul qui restait d'avant, c'était Nicolas Bruch, à la trompette et au clavier. Et ça, c'est pas explicable, c'est la musique, hein, mais je m'amuse, je sais pas, quand on joue ensemble, il y a des trucs qui se passent, encore une fois, avec, j'utilise les mêmes mots, mais une notion de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire, que je trouve plaisante, quoi. J'ai vraiment l'impression de jamais avoir autant de fait de la musique.
Alors, on parlait de pochette. Sur ton nouvel album, Le Poids du Superflu, on y voit une boule avec à l'intérieur un canon. On n'y voit pas de boulet, d'ailleurs. L'arme est déjà chargée. Tu es en guerre contre qui, contre quoi?
Bah, c'est-à-dire que non, mais c'est aussi pour cette espèce de... Le poids du superflu, cette espèce d'antagoniste dans la phrase qu'il y a, qu'on retrouve dans ce canon, dans cette boule. Au départ, on était parti sur une idée de canon. Et puis, c'est vrai que avec le graphiste, là, en tâtonnant à droite à gauche, on a trouvé cette boule et on s'est dit ça va avec le texte, quoi. C'est comme une espèce de mise en parallèle exacte du titre du disque, quoi. Avec le côté pile, le côté face, le côté blanc, le côté noir, le côté sombre, le côté clair, tout ça, quoi. Cette espèce, un antagonisme. Et en même temps, après, chacun y verra ce qu'il voudra, mais chaque chanson est illustrée par une petite. Un petit graphisme dans le disque. Celle-là va avec une chanson qui s'appelle Carnaval. Et qui traite de une espèce de parabole sur le 14 juillet, sur de la façon dont les pays occidentaux et notamment la France s'arment et commercialisent la guerre, quoi. Ils l'utilisent et puis se contentent tous les 14 juillet avec leur mine triste et pâle, sérieuse, en essayant de créditer ça d'une bonne conscience. Voilà, ça allait bien avec ça. Et du coup, c'est... Il y a eu un lien direct avec le titre du disque, quoi.
D'accord. Alors, une fois de plus, tu dresses un portrait de notre monde sans concession, mais ton écriture se veut plus poétique, tu joues plus avec les mots. Le fait d'avoir pris plus de temps pour écrire tes nouvelles chansons à jouer
Écoute, j'ai pas pris plus de temps pour les écrire. Par contre, j'ai épousé une psychanalyste lacanienne. Et je t'avouerai que ça m'a changé ma façon de percevoir l'écriture, les mots et le rapport à la poésie. Effectivement, je suis content que tu me le dises. Parce qu'on ne l'avait pas encore dit en interview, que tu as remarqué que cette écriture avait pris un aspect plus poétique, peut-être moins terre à terre, moins direct.
Ouais.
C'est chouette parce que c'est effectivement le cas. Et ça vient de là, ça vient de ma femme.
D'accord. Quand je dis tu joues plus avec les mots, oui, aussi.
C'est ça. Hein? C'est ça. C'est le principe aussi de la poésie, c'est de faire naître des choses. Chaque mot a une signification, un signifiant. Et puis quand on en mélange deux en même temps, Les significations se croisent et peuvent faire naître de nouvelles significations qui n'étaient pas là quand les mots étaient séparés. Enfin voilà, tout ça, l'écriture, quoi.
Ouais. Alors, ce nouvel album est plus électrique, mais aussi plus éclectique. Le fait de travailler avec désormais trois musiciens et François Goertz au son, au mixage et au mastering, y est pour beaucoup, j'imagine, étant ouvert musicalement parlant.
Ouais, c'est-à-dire que c'est des musiques en termes de musique proprement dit, c'est vraiment des adeptes du groove, quoi. C'est des types qui ont travaillé les morceaux en essayant de retirer la quintessence du groove qu'il y avait dans les parties guitare et chant que je leur proposais, et là-dessus ils ont réussi. Et puis après, tout ça a été sublimé, largement sublimé par François Goertz, qui a mixé les albums de Moriarty, de Zaz, avec un enthousiasme et puis un respect de notre travail que j'avais jamais eu auparavant. J'étais vraiment content parce que c'est le premier disque que je réécoute. J'ai jamais réécouté les disques que j'avais fait avant.
Ah ouais.
Et celui-là, c'est le premier où je suis surpris à chaque écoute de. Il a réussi à faire un truc propre, alors que précédemment c'était quand même compliqué le son qu'on avait sur les albums. Et là, voilà, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir ça. Ah, comme je le disais tout à l'heure, fait véritablement autant de musique dans un disque, et puis qu'elle soit aussi bien traitée et sublimée par l'ingé son.
Ouais. Alors, on te retrouve sans le dérancer la semaine prochaine, je rajouterai comme d'habitude, parce que tu viens souvent y jouer, tes tournées se ressemblent, je veux dire, par là, les programmateurs te sont fidèles avec le temps.
Bah ouais, puis c'est quand même un... C'est le but, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, tu dois être un peu peureux ou timide, je sais pas, mais j'aime bien, et dans les lieux que je connais, qui nous ont suivis aussi depuis le début, parce que c'est des lieux qui, au départ, quand on y allait, étaient au tiers plein, et puis l'année d'après, à moitié, et puis là, qui sont complètement pleins. Donc, c'est bien aussi d'avoir cette fidélité-là par rapport aux lieux, par rapport aux gens qui travaillent, que du coup, on connaît maintenant, qu'on connaît bien. Et c'est rassurant, et je pense que quand on arrive dans une salle comme ça, où bah on a déjà été, où on connaît les gens, où on sait qui on va rencontrer, re-rencontrer, et que c'est familier, bah là, le spectacle n'est que meilleur, quoi, parce qu'on a passé une bonne journée avant. En l'occurrence, à Lyon, ce sera 3 bonnes journées de suite même. Je trouve ça important.
Cette fidélité des salles de concert est la preuve que le projet Batlick tient plutôt bien la route, comme si le Batlick des disques avait plus de mal à séduire que le Batlick de la scène.
Non, mais je pense que ça, après, pour que les gens soient séduits par des disques, il faut juste les forcer à être séduits, quoi. C'est le monde moderne, c'est-à-dire que si tu passes pas moult et moult fois sur les ondes et que tu t'es pas tout le temps en train de faire des grands mouvements de bras pour dire aux gens, achetez-le, on est ici, on est là, ben, les gens, c'est pas de leur faute, hein, on en fait partie. Tout ouais. C'est qu'on a parfois du mal à savoir que ça existe, tout simplement, quoi. Conquérir son public avec le disque, c'est aller à sa rencontre, et puis à la rencontre du public avec un disque, c'est utiliser des moyens qui demandent des thunes, et puis nous, des thunes, on en manque. Mais je dis pas ça du tout avec, comment on dit, je suis pas déçu du tout, c'est comme ça que c'est. Moi, je leur dis, tant que mon économie me permet de pouvoir financer le disque d'après, c'est tranquille.
Ouais. Eh bien, merci, Batlick, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Merci à toi.
On va rappeler que ton 8e album, hein, tout compris, hein, Le Poids du Superflu est sorti depuis le 2 avril 2012, et puis qu'on peut se le procurer un peu partout, sans oublier les autres, bien évidemment.
Ouais, hein, exactement.
Voilà. On te retrouve sur internet via ton site www.abrulepourpoint.com, et moi je vous recommande notamment la biographie qui est très drôle, avec beaucoup d'humour noir.
C'est vrai.
Hein. L'humour noir, c'est à ton image, non? Tu es très humour noir.
Tu sais, souvent ça se passe comme ça. Tu peux faire écrire des biographies par les gens. Ils en avaient écrit des trucs, c'était très bien écrit, c'était super, mais il y avait toujours un peu ce côté encensoir, ça se dit, encensoir.
Ouais.
Et ben c'est ça qui me déplaisait, donc je me suis dit à un moment que non, il fallait vraiment dire les choses comme elles étaient, et c'était plus rigolo d'avoir cette espèce de côté terre à terre pour la bio.
Ah ouais.
Parfois c'est cool.
Et le plus important pour nous, ben on va le rappeler, tu seras une fois de plus salle d'Errancy à Lyon du jeudi 26 au samedi 28 avril 2012 avec vendredi 27 en première partie notre ami Théophile Hardy.
Yep.
Voilà. Et ben Batlick, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
Hein, bon concert, et puis ben comme d'habitude, à bientôt sur Tropic FM.
Merci, au revoir.
Salut.